et pour cette présidence qui nous place sur orbite. Merci Seigneur. Je lirai avec vous un passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, les versets 1 à 19. Genèse 22, 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu saura voir lui-même l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains le Seigneur, car tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Adonai Iré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne, le Seigneur se laissera voir. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Sheba, car Abraham demeurait à Beer-Sheba. Que le Seigneur nous bénisse par cette lecture très ancienne mais que nous avons tous en mémoire. Frères et sœurs, dans le cheminement spirituel d'Abraham, ce récit du chapitre 22 de la Genèse constitue une étape importante dans la vie d'Abraham, une étape aussi décisive que celle qui est mentionnée au chapitre 12, tout au début de sa marche par la foi, quand Dieu lui ordonna de tout quitter pour aller dans un pays qu'il lui indiquerait. Cependant, à ce moment-là, même si, selon l'expression de la lettre aux Hébreux, même si Abraham partit sans savoir où il allait, Abraham pouvait quand même s'appuyer sur de solides promesses qui lui garantissaient un heureux aboutissement. Tandis que ici, dans ce chapitre 22, les faits sont différents. Dieu met Abraham à l'épreuve. Cette fois-ci, Dieu lui donne simplement un ordre: prends ton fils, ton unique, Isaac, pars au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. Aucun élément ne justifie cette décision. Aucune promesse n'est formulée pour encourager. Dieu s'entoure d'un silence mystérieux. Pourquoi? On ne sait pas. Abraham devra se contenter d'avancer vers le lieu indiqué à travers les ténèbres divines, en s'en remettant tout simplement à la loyauté de celui qu'il avait appelé. Sur ce point, frères et sœurs, j'ai compris, je crois comprendre, que toute marche avec Dieu par la foi comporte ces moments d'obscurité un jour ou l'autre, les motifs d'inquiétude au sujet du lendemain se présenteront toujours à notre esprit. Le silence de Dieu risque alors de les accentuer. Comment réagir dans ces cas? Je pense à deux passages du Nouveau Testament qui nous présentent une situation qui a à peu près la même configuration de cette avance dans l'obscurité, dans le silence. Je pense en particulier à cette journée de Jésus avec ses disciples, une journée qui était bien remplie. Et le soir venu, Jésus leur dit « Allons sur l'autre rive, traversons le lac. » Et voici qu'en traversant le lac, une tempête se déchaîne. Et celui qui leur avait donné l'ordre dormait. Silence. Alors que les disciples s'efforçaient de combattre cette tempête, l'eau qui pénétrait dans la barque. On croit les entendre dire « Ah, cette fois-ci, on ne s'en sortira pas. » Ils avaient oublié tout simplement la parole du départ « Allons à l'autre rive. » Finalement, ils ont réveillé le Seigneur qui a mis fin à cette situation dangereuse. L'autre passage, c'est dans le livre des Actes, où les apôtres, Paul et son équipe, ont cherché à pénétrer en Asie. Et l'Esprit du Seigneur s'y opposa. Par deux fois, ils ont pris une direction qui n'était pas celle du Seigneur. Et puis une nuit, Paul, en songe, vit un Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine et délivre-nous, sauve-nous. » Immédiatement, ils prirent leur disposition pour aller en Macédoine. Et qu'arriva-t-il en Macédoine, à Philippe? Eh bien, les Macédoniens ne s'étaient pas montrés gentils. Ils ont arrêté Paul et son équipe, Paul et Silas. Ils reçurent des coups, ils sont jetés en prison. Et pourtant, le Seigneur leur a dit d'aller en Macédoine. voilà ce genre de situation qu'un jour ou l'autre, nous aurons à confronter sur l'ordre de Dieu. Et le silence de Dieu vient compliquer les choses. Ce récit sur Abraham nous encourage, parce que nous connaissons tous le dénouement. Dieu intervient. Mais avant cela, voyons un peu le comportement d'Abraham. Tout d'abord, nous verrons Abraham face au mystérieux dessein de Dieu. Nous verrons ensuite quelques traits de la piété d'Abraham. Et puis enfin, pour terminer, nous verrons la surprenante intervention de Dieu. Abraham face au dessein mystérieux de Dieu. À vue humaine, l'ordre du Seigneur semble compromettre sérieusement l'avenir d'Abraham. En effet, toute l'espérance qu'il avait placée dans son fils vient de s'effondrer avec cette annonce. Tout était réduit à néant. Nous nous souvenons en effet qu'Isaac, l'enfant de la promesse, si longtemps attendu, cet enfant doit être immolé par le feu. Alors, quand on se souvient la longue attente d'Abraham et de Sarah pour l'arrivée de ce fils, on pourrait dire, comme on l'entend souvent, tout cela pour ça. Surtout qu'Abraham n'était plus jeune, il était plus que centenaire. Pouvait-il encore imaginer la possibilité d'un nouveau départ, comme le départ de Chaldée pour la terre promise et avec la promesse d'un enfant, d'un héritage, d'un héritier, d'un successeur. Abraham, ayant marché devant la face du Seigneur, aurait pu s'imaginer avoir tout appris à son âge. Or, face à l'épreuve présente, il va adopter une conduite humble. Il a conscience de devoir encore apprendre beaucoup en compagnie de Dieu. Comme un enfant au seuil de la vie, il va se laisser guider, instruire en suivant la route indiquée. Je trouve cela admirable. Et je trouve aussi Dieu admirable. Car Dieu consent à éduquer un homme quand bien même celui-ci serait au soir de sa vie. Un exemple personnel, j'avais un ami qui était chef d'orchestre, et puis un jour, on parlait, et je lui disais, je ne sais pas pourquoi, « Oh, tu sais, moi j'aimerais bien jouer du violoncelle. » Il m'arrêta net, il m'a dit « T'es trop vieux. » Et j'avais seulement la trentaine. Oui, pour certaines choses, tout recommencer, ce n'est pas envisageable. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il nous dit « Jusqu'à votre vieillesse, moi je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. » Et je veux encore porter, soutenir et libérer. Voilà ce qu'avait dit Dieu par son prophète Ésaïe. Mais souvenons-nous aussi de Jésus face à Nicodème, qui lui s'estimait vieux pour naître de nouveau. Mais Jésus a consenti à enseigner Nicodème, malgré son préjugé concernant son âge. Oui, quand nous sommes en relation avec Jésus par la foi, nous avons part à sa plénitude, grâce sur grâce, et nous allons de découverte en découverte, au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même penser. Pour en revenir à Abraham, précisément, Ce qu'Abraham avait appris depuis sa première rencontre avec Dieu le préparait à cette épreuve pour avancer dans l'obéissance de la foi. Certes, Abraham ne savait pas tout, mais ce qu'il avait retenu de la connaissance de son Dieu était suffisant pour affronter le test rigoureux que Dieu lui imposait. Ce sont les chapitres précédents, de 12 à 22, qui nous permettent d'évaluer plus ou moins ce que Abraham avait appris avant son épreuve. Les rencontres qu'il a eues, au cours desquelles il a entendu des messages, il a entendu la parole de Dieu. C'est ainsi que Melchisédek, qui était prêtre et roi, avait béni Abraham par le Dieu très haut. C'était une révélation pour Abraham que ce Dieu très haut. Ensuite, au chapitre 15, Dieu s'est présenté à Abraham en disant « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera considérable. » Et puis toujours au chapitre 15, Dieu a révélé à Abraham que sa descendance irait dans un pays étranger où il serait asservi pendant 4 siècles. En sous-entendu, puisque cet événement doit se produire, c'est que la descendance d'Abraham ne va pas s'arrêter avec l'immolation d'Isaac. Il y a quelque chose qui arrivera après. Donc Abraham doit se souvenir de cela. Ta descendance va être esclave pendant 400 ans. Et puis encore, Abraham a dû se rappeler de cette parole lors de la visite de ses hommes. Il lui a dit, « Je suis l'Éternel. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Quelle parole ?« Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Et encore au chapitre 15, Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. » Voilà quelques paroles semées comme des jalons sur tout le chemin d'Abraham jusqu'au moment de cette épreuve. Ainsi, Abraham, en compagnie de Dieu, avait reçu une solide formation lui permettant d'être à la fois humble et déterminé. Et surtout, il pouvait être plein d'espérance, même au sein de l'épreuve. Et c'est à juste titre que la lettre aux Hébreux pouvait déclarer « Mis à l'épreuve, Abraham, par la foi, a offert Isaac, son fils. Il se disait que même mort, Dieu est capable de le ressusciter. Aussi le retrouvera-t-il par une sorte de résurrection. » Voilà Abraham face au dessein mystérieux de Dieu qui lui dit d'avancer. Essayons de tirer quelques caractéristiques de la piété d'Abraham. Ce que nous venons de dire au sujet d'Abraham nous a déjà renseigné sur sa piété. Mais nous pouvons en découvrir davantage. L'Écriture, par exemple, nous le savons, ne manque pas d'éloges au sujet de la foi d'Abraham, le père des croyants. Sa foi est digne d'être imitée, sa confiance en Dieu. Pourtant, dans ce récit, ce n'est pas la confiance en Dieu, ce n'est pas la foi d'Abraham qui va être mise en exergue, en relief. C'est plutôt sa crainte de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui va dire « Je reconnais que tu crains Dieu ». Ainsi, il y a, si j'ose dire, une évolution de la confiance en Dieu à la crainte de Dieu. Deux pôles de la piété d'Abraham. La confiance en Dieu et la crainte de Dieu se ressemblent toutefois, mais il y a quelques nuances. Par exemple, concernant la confiance en Dieu, la foi en Dieu, Abraham peut s'attendre à voir s'accomplir la promesse de Dieu. C'est par la foi, c'est par sa confiance qu'il attend une récompense. Tandis que, par sa crainte, Abraham n'attend pas de récompense. C'est lui qui fait un don, c'est lui qui offre le fils qu'il avait reçu. C'est parce que, dans la crainte de Dieu, il y a la reconnaissance, il y a le respect, et à cause de cela, Abraham obéit sans attendre en retour quoi que ce soit comme récompense. Il me semble, frères et sœurs, que nous avons là l'essence même de la piété de Jésus-Christ. Ce Fils de Dieu s'est appliqué sans relâche à être agréable à son Père. Et Ésaïe avait annoncé à son sujet que le Messie obtiendrait l'Esprit Saint qui lui communiquerait la crainte de Dieu. Et c'est en raison de cet Esprit Saint, de cette crainte de Dieu, que Jésus pouvait adopter une adhésion parfaite à son Père en lui obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il y a donc cette sensible différence entre confiance en Dieu et crainte de Dieu. Dans le premier cas, il y a une promesse, il y a une récompense qui est attachée à la confiance, tandis qu'à la crainte de Dieu, il n'y a pas forcément une promesse. Et Dieu demande d'agir, d'obéir. Et si nous avons confiance en lui dans le respect de son Saint-Nom, alors nous faisons ce qu'il nous demande. Cependant, cette gratuité, si j'ose dire, de la confiance en Dieu, n'exclut pas une certaine attente, c'est-à-dire l'attente d'être apprécié de Dieu. Non pas forcément une récompense, mais tout simplement, Dieu approuve ce que nous faisons. Dans sa justice, il tient compte de notre obéissance. C'est ainsi que Jésus disait, « Ma vie à moi, personne ne me l'ôte, mais je la donne. Je la donne afin de la recevoir à nouveau. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il donne sa vie et il espère la recevoir à nouveau. Eh bien, Jésus disait cela en référence à ce grain de blé qui tombe en terre, qui meurt et qui porte beaucoup de fruits. Jésus donne sa vie, mais il a la certitude que cette vie répandue n'est pas perdue, mais que cela est un gain. Parce que la multitude, l'humanité, va être sauvée par sa mort et ressuscitée avec lui. La vie de Jésus-Christ répandue va se multiplier dans ses croyants, dans ses disciples. Voilà donc encore un aspect de la crainte de Dieu. On obéit par obéissance, on obéit par crainte, on obéit par respect, mais avec la certitude d'être agréé. Et c'est parce que le sacrifice de Jésus-Christ a été agréé que Dieu l'a ressuscité. Si le sacrifice n'était pas agréé, Dieu l'aurait laissé dans le séjour des morts. Mais par sa résurrection, Dieu approuve le sacrifice de Jésus-Christ. Cela pour nous encourager dans la crainte de Dieu, lorsqu'il nous ordonne de prendre tel chemin, dans les ténèbres, dans le silence, sachons avancer, sachons espérer que ce n'est pas une perte, mais un gain. Après ces deux caractéristiques de la piété d'Abraham, de la confiance à la crainte de Dieu, nous arrivons maintenant à l'intervention surprenante de Dieu. Notre récit se termine d'une façon inattendue. Après 3 jours de marche, Abraham atteint le lieu indiqué par Dieu. Mais au moment où il s'apprête à immoler son fils, à l'égorger, comme dit le texte, Dieu l'arrête dans cette action funeste. Dieu est convaincu de sa piété authentique et Abraham est arrêté dans son action funeste, dans cette scène révoltante. Révoltante, même si à cette époque-là, les nations environnantes pratiquaient cette sorte de rite. Ils immolaient des enfants. Mais la question que nous nous posons, en voyant cette intervention de Dieu, ne fais pas de mal à l'enfant. Je sais que tu crains Dieu. La question que nous nous posons est la suivante. Alors, Dieu avait-il vraiment besoin d'éprouver son ami de la sorte? Était-ce nécessaire, cette épreuve? Voulait-il se divertir, Dieu, en traitant son ami comme une marionnette? Oh, je vais le voir, je vais le faire marcher. Était-ce là l'intention de Dieu? Est-ce là son intention quand il nous envoie dans des situations où il y a une impasse? Eh bien non. Au contraire, Dieu voulait valoriser Abraham. Non pas l'humilier, non pas l'amoindrir par l'épreuve. Je vais en faire ce que je veux. Mais Dieu voulait l'élever, le valoriser. En effet, le texte nous laisse comprendre que Dieu était ému, attendri par la conduite d'Abraham. De voir son serviteur aller jusqu'au bout, Dieu était émerveillé. Dieu était fier, entre guillemets, de voir le père des croyants réussir le test qui lui était recommandé. Et alors, non seulement Dieu agit pour arrêter la suite funeste, mais Dieu se met à parler. Il se laisse voir, comme dit le texte. C'est à la montagne que l'on verra Dieu, que Dieu se laissera voir. Il se laisse voir en agissant. Quelles sont les actions de Dieu? Eh bien, tout d'abord, Dieu se montre comme celui qui prévoit et pourvoit. Dans ce passage, il est question de ce bélier pris par les cornes dans le buisson. Il n'est pas interdit de considérer ce fait comme une manifestation de la providence divine. Elle est conforme à la réponse d'Abraham à son fils lorsqu'il lui disait « Mon fils, Dieu saura voir ». Pour le bélier de l'Holocauste. Et nous voyons bien que cette parole d'Abraham à son fils n'était pas une dérobade, mais c'était une parole prophétique. Dieu a pourvu par ce bélier. Dieu se montre aussi comme le Seigneur qui épargne et qui remplace et qui substitue. D'une part, Dieu épargne. En effet, il ordonne à Abraham, n'étends pas la main sur le fils, ne lui fais rien. Mais en même temps, Dieu substitue par le fait qu'il met à la disposition d'Abraham ce bélier. Et nous dit le texte, Abraham a pu l'offrir en holocauste à la place de son fils. Ainsi, nous voyons 2 phases complémentaires. Dieu épargne, Dieu substitue. Et dans l'histoire du salut, chaque fois que Dieu intervient pour sauver, il y a ces 2 phases complémentaires et solidaires. D'un côté, Dieu épargne, de l'autre côté, il substitue. Souvenons-nous de ce qui s'est passé en Égypte, lors de la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël, les fils d'Israël, ont été épargnés à cause de l'agneau dont le sang était affiché, si je veux dire. Et puis, pour la rédemption de l'humanité, à la croix, l'humanité coupable et pécheresse a été épargnée. Et c'est un juste, un innocent qui a été à notre place immolé. Enfin, troisième démonstration de l'intervention de Dieu qui se laisse voir, Dieu se montre comme le Seigneur qui amplifie sa parole, qui amplifie, qui magnifie sa parole et qui à la fois multiplie la descendance d'Abraham. Nous ne pouvons pas manquer en effet d'observer cette annonce solennelle qui accompagne la fin de l'histoire, la fin du récit. Dieu conclut son intervention par un serment qui magnifie la promesse. Dieu déclare « Je le jure par moi-même ». Une promesse qui était antérieure au chapitre 12 et 15, nous voyons déjà Dieu promettre de multiplier la descendance d'Abraham. Mais ici, il dit « Je le jure par moi-même ». Je m'engage à bénir et à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Ce que ce serment ajoute comme valeur, valeur ajoutée, c'est que ce serment suggère que Dieu, en parlant ainsi, met à l'œuvre sa puissance, une puissance de vie comme au moment de la création. Souvenez-vous, au moment de la création, Dieu parlait et par sa puissance, il a créé. Et par sa puissance, il a ordonné de multiplier. Dieu bénit et multiplie. Et ici, là, en prenant ce même schéma, Dieu s'engage à bénir, à multiplier. Donc c'est une puissance de vie qui entre en action. Mais il y a plus. C'est aussi une puissance de résurrection. Parce que ce texte parle aussi de mort. Isaac, finalement, est considéré comme mort puisqu'il a été remplacé. Quelqu'un est mort à sa place. Comme dira l'apôtre Paul, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et bien ici, Isaac est considéré comme mort. Mais par la puissance de Dieu, il revient à la vie avec une multitude dans sa descendance. Voilà quelques aspects encourageants dans cette épreuve. L'humilité d'Abraham face à l'inconnu, face au néant, humble et patient. Ensuite, sa piété, il passe de la confiance à la crainte. Il n'attend rien, mais il sait que Dieu est juste. Et puis, troisième étape, c'est l'intervention de Dieu. Alors, pour conclure cette méditation, nous pouvons nous rappeler ce que nous disions au début. Lorsqu'il nous arrive de nous confronter à des moments de ténèbres, de silence de la part de Dieu, comment réagir? Eh bien, nous avons le schéma à suivre. L'heureux dénouement rapporté au sujet d'Abraham nous montre que Dieu était à l'œuvre du début à la fin. Même dans le silence, il était à l'œuvre. Et ce que nous devons aussi savoir, dans toute épreuve que Dieu impose, lui-même aussi est en épreuve. Ce n'est pas l'épreuve d'un prof qui fait passer un examen, mais l'épreuve de Dieu, c'est l'épreuve d'un artisan. Un artisan qui fabrique quelque chose, une œuvre, et après, cet artisan teste pour voir si ça marche. Donc, si ça marche, c'est l'artisan lui-même qui est en épreuve. Il voit s'il a bien travaillé. Si bien que, tout à l'heure on a lu un passage des Romains, la nouvelle création, il nous a parlé du soupir de l'esprit. Non seulement la création soupire, mais l'esprit aussi entre en gémissement dans cet enfantement. Donc quand Dieu nous éprouve, quand c'est lui qui nous éprouve, lui aussi il entre dans cette épreuve, il soupire. Il dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va m'obéir jusqu'au bout? Je vais le soutenir, je vais être avec lui. Comprenons bien cela, Dieu ne nous lâche pas dans l'épreuve, parce que c'est son œuvre, c'est son affaire. Et puis ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, nous dit Paul, dans nos épreuves et tentations, prépare toujours une issue. Il nous donne les moyens que nous puissions les découvrir et les mettre en valeur. Et puis je termine par cette parole de l'apôtre Pierre qui dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. » Merci Seigneur pour les épreuves que tu nous envoies, parce que tu nous fais grandir, même si nous ne voyons pas tout de suite. C'est ton œuvre, c'est ta gloire qui en dépend. Amen.